Et nous allons débuter ensemble une toute nouvelle semaine de découverte destination. Et nous sommes installés au cœur de l'hôtel de ville de Limoges, la mairie de Limoges. Et nous allons partager une grosse partie de cette semaine avec Éric Bouteau, guide conférencier à l'Office de tourisme de Limoges, et qui va venir nous expliquer un peu l'histoire de ce lieu plein de symboliques. Il y a plein de choses à voir lorsque vous venez ici, peut-être simplement pour un papier administratif. Prenez le temps de jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a autour de vous et on va essayer de vous décrypter une partie de l'histoire de l'hôtel de ville, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire que vous pourrez découvrir au travers de visites guidées directement. Et puis en fin de semaine, il n'est pas impossible que nous poussions la porte du bureau du maire qui pourrait nous consacrer quelques minutes. On en reparlera. D'abord, Éric, le début de l'histoire finalement de la mairie de Limoges, tout part d'un homme à côté duquel nous nous trouvons d'ailleurs.
Alors, exactement, financièrement, le projet de la mairie actuelle de l'hôtel de ville n'aurait sûrement pas éclos, ou peut-être dans des conditions différentes, s'il n'y avait pas eu cette histoire, celle d'un bienfaiteur, Alfred Fournier, qui fut un homme de son temps, du 19e siècle, donc issu d'une famille relativement riche, mais qui dans sa vie personnelle s'est relevé assez dramatique avec la perte de ses épouses successives, de son enfant. Et à la fin de sa vie, voyant le déclin fatal, il va chez son notaire écrire son testament et offrir son legs héréditaire d'1 million de francs environ de l'époque pour la ville de Limoges et pour les habitants.
Sans forcément dire quoi en faire, c'est un legs.
Voilà, c'est un legs qu'il remet pour le bonheur de la population. La ville de Limoges le reçoit, le conseil municipal de l'époque, mais sans avoir une idée fixe au départ, de nombreux chantiers pouvaient être ouverts à ce moment-là, mais le constat va être vite fait que la mairie que cette municipalité occupait, qui était au même endroit aujourd'hui, place Léon Betoul, au milieu de Limoges en quelque sorte, se trouvait trop petite, assez vétuste, c'est-à-dire que dans la même salle on faisait le conseil municipal, les mariages, les prud'hommes. Elle était encombrée en quelque sorte. Donc 1873, le legs est fait. 1875, c'est le décès d'Alfred Fournier. L'argent est reçu. Et en 1877, donc une commission se réunit. Ça y est, le projet est entériné. Il y aura une mairie et un concours est lancé. Bon, la taille de la mairie de Limoges correspond à une population qui allait croissante. Le 19e siècle, à Limoges, c'est l'expansion. En 1800, 20 000 habitants environ. En 1900, on est autour de 90 000. Boom démographique qui est lié à l'activité économique, industrielle de la ville. Et donc, il faut une maison commune, un palais du peuple, hôtel de ville, mairie, donc autant de synonymes pour signifier le lieu qui doit accueillir l'institution, nos représentants, et qui doivent donc délibérer pour prendre les affaires de la commune. Donc, c'est assez naturellement qu'on va aller vers un projet assez prestigieux, mené par un architecte lui aussi prestigieux, puisqu'il avait reçu un Grand Prix de Rome dans les années 1860.
Alors concrètement, comment ça s'est passé? Le plan de départ ne ressemblait pas forcément au résultat d'aujourd'hui?
Alors en fait, en 1877, donc, la commission va donc trancher parmi 27 projets. Le projet qui l'emporte, c'est le projet Doctrina. Le projet Doctrina, donc, c'est le projet d'Alfred Leclerc. C'est Alfred Leclerc qui est choisi.
C'est une histoire d'Alfred, finalement.
C'est notre deuxième Alfred, là, effectivement. Alors, Alfred Leclerc, lui, il avait postulé, c'est très intéressant, au concours qui avait eu lieu à Paris pour la reconstruction de la mairie de Paris, qui, d'ailleurs, quand on arrive à Limoges, paraît assez similaire. C'est vrai. Alors, le modèle parisien va servir partout en France à permettre la construction d'hôtels de ville, finalement, qui sont un style assez néo, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer du passé, notamment de la Renaissance, ou alors d'une forme de classicisme, pour construire des édifices monumentaux. Et il faut voir aussi que cet élan va avec l'élan républicain, la Troisième République naissante.
Non, aujourd'hui, c'est ça, c'est un bâtiment qui doit refléter la fierté républicaine, finalement.
Exactement. La fierté républicaine, tous les symboles républicains sont là. À l'époque, il faut se dire que ce n'était pas gagné. Il y a beaucoup de courants qui étaient anti-républicains. Donc, on magnifie la République. On incarne, en fait, dans la pierre et dans le matériau, ce que l'on désire pour une puissance nationale autour des vertus républicaines.
L'inauguration de cette mairie, c'est une date aussi évidemment importante et qui va peut-être d'ailleurs prêter à voir l'histoire autrement.
14 juillet 1883, Alors, les travaux avaient commencé en 1879. On inaugure un 14 juillet. C'est une date très symbolique, la fête nationale, avec les défilés militaires. Important, c'est en 1880 que la fête nationale est arrêtée en France. Et non pas avant. Alors, on aurait pu avoir une fête nationale, je sais pas, le 4 août, pour signifier la fin des privilèges. On a choisi le 14 juillet. Alors, on pense à la prise de la Bastille en 1789, mais un an après, il y a la grande fête des fédérés de la nation qui tenait à rassembler toute la population française avec de nouvelles vertus, de nouvelles idées. Et donc, là encore, le jour n'a pas été un hasard.
Voilà, et quand vous aurez le feu d'artifice chaque année, vous aurez maintenant une petite pensée pour la mairie. Avant de refermer ce premier rendez-vous, peut-être un mot sur les matériaux également qui composent cette mairie. Eux aussi, évidemment, ils ne sont pas choisis au hasard.
Oui, alors, quand on arrive, le granit, c'est le soubassement, matériau local. Le calcaire, c'est les façades. Calcaire clair, donc pierre tendre, qui est attrayante à l'œil, qui venait du Poitou notamment. Qui n'a pas été d'ailleurs sans débat, hein, étant donné que notre région, hein, les carrières, les filières économiques, c'était le granit, mais le calcaire s'impose. Et puis la toiture, qui est mansardée, en belle ardoise d'Anjou. Donc c'est un monument, oui, qui est un petit peu qui détonne, si vous voulez, par rapport aux matériaux locaux. Cathédrale, c'est granit, la tuile, canal. Ici, c'est le calcaire et l'ardoise, majoritairement.
Spécificité, effectivement, de ce lieu. Et dans notre rendez-vous de demain, on va aller voir un petit peu à l'extérieur déjà, hein, parce qu'avant même de pénétrer dans les lieux, il y a déjà énormément de choses. On pense à la fontaine, qui est évidemment un des symboles ici. Juste un mot avant de partir. Donc on est là à côté de celui qui fait face à l'entrée. C'est le buste de ce généreux donateur.
Exactement. Lorsqu'on pénètre, le regard doit faire face. Une volée d'escalier, un tapis rouge. Et puis Fournier, son buste, qui paraît un petit peu sévère et qui est signé sur le côté du grand sculpteur Tabar. Donc quand vous rentrez dans la mairie, n'hésitez pas à venir lui rendre hommage, lui dire merci.
Voilà, tout ça, c'est grâce à lui, donc Alfred Fournier, qui est donc face à cette entrée. Et nous, on va justement regagner la sortie pour évoquer demain cette façade emblématique de la mairie, mais également la fontaine et puis quelques nouveautés qui ont été installées également sur cette place Léon Betoul. Et c'est notre deuxième rendez-vous cette semaine à la découverte de l'hôtel de ville de Limoges. Nous sommes installés, alors non pas dans l'hôtel de ville que nous rejoindrons dans le rendez-vous de demain. Nous allons le parcourir dans différentes salles et nous irons grimper également dans le campanile. Donc pour vous, nous sommes prêts à tout dans ce rendez-vous. Nous sommes toujours avec Éric Bouteau qui est le guide conférencier à l'Office de Tourisme et qui nous raconte cette histoire tout au long de la semaine. Alors on est ressorti du bâtiment dans lequel nous trouvions hier parce que à l'extérieur il y a déjà des choses absolument magnifiques. On parle de symbole, à commencer peut-être par celui qui est face à nous, alors qui en ce moment même est en cours de restauration, c'est la fontaine.
Oui, tout à fait. La fontaine, c'est la vitrine artistique de la ville de Limoges. La fontaine de la mairie, elle occupe une place privilégiée sur la place Léon Betoul, donc maire recordman de longévité à Limoges, 38 ans. Cette place Léon Betoul qui offre finalement le meilleur regard sur la façade. Et cette position d'une fontaine de 9 mètres de haut qui est magnifique, très singulière, avec des inclusions de porcelaine, puisque c'est ça finalement l'originalité de cette magnifique œuvre d'art. Ça a été un projet qui a été lancé suite à la construction de la mairie et qui a abouti en 1893, donc 10 ans après l'hôtel de ville, à son inauguration.
Donc c'est une fontaine qui évidemment aujourd'hui est classée.
Ah oui, elle est protégée, effectivement. Alors elle est constituée de 3 matériaux, de la pierre, du bronze et puis de la porcelaine. Le projet, il avait été initié notamment par monsieur l'ouvrier de la Jolée qui était le directeur de l'école nationale d'art décoratif à Limoges et qui entretenait des liens là aussi privilégiés avec l'école de Paris des Beaux-Arts et notamment Charles Genuis qui a fourni les plans pour finalement imaginer, concevoir cette fontaine. Après, il va y avoir un travail, on a mis à contribution les élèves de l'école qui ont réalisé notamment les moules, qui ont imaginé aussi, bon, en partenariat avec d'autres artistes, hein, mais les décors pour incarner bon, le matériau qui, à Limoges, voilà, ne cessait de se développer, de participer aux grandes foires universelles, de se vendre dans le monde entier les assiettes des présidents américains et autres. Mais ici, ce qui était aussi la tentative, c'était d'avoir une céramique architecturale, c'est-à-dire une céramique dans l'architecture, dans le décor. Il y avait cette tentative, cette tentation, cette opportunité, voilà, peut-être un nouveau marché que celui de la céramique architecturale. Donc incontournable, tout voyageur qui arrive à Limoges depuis plus de 100 ans voit ce magnifique décor.
Et puis il y a des petites statues que l'on peut découvrir également sur cette fontaine.
Oui, quatre jeunes garçons en train chacun de réaliser une étape de la porcelaine. Il y en a un qui dessine, il y en a un qui peint, il y en a un qui façonne et il y en a un qui tourne. Donc là aussi, on incarne sous les traits d'allégorie la porcelaine.
L'histoire évidemment de Limoges. Donc on l'a compris et donc on fait une petite photo incontournable devant, avec la fontaine quand on vient ici. Et puis ensuite on fait quoi? On se tourne et
ensuite,
puis on voit.
Alors ensuite on voit, on s'assoit tranquillement.
Déjà.
Ah oui, il faut s'asseoir.
Il faut se remettre de ses émotions.
Oui, 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 faut avoir les, être bien calé là. Et pourquoi pas sur un banc avec des inclusions de porcelaine donc, qui vient d'être installé. Hein. Donc maintenant, même depuis l'année dernière, à côté des magnifiques séquoias d'ailleurs, ce sont des prototypes qui sont là, qui vont rester là et qui surtout sont peut-être le départ de projets de mobilier céramique dans toute la ville. Donc vous pouvez voir des potelets, des bancs, des chaises en céramique, des fleurs en céramique aussi qui sont utilisées par les espaces verts. Et quand vous regardez la façade...
Là, il va y avoir plein d'autres choses. On va se décaler parce que du coup, il n'y a pas de raison que nous, on ne la regarde pas non plus. Alors, c'est la sortie des bureaux. Hein, donc,
on va essayer de se frayer un chemin. On est dans le passage, il faut le dire. Et maintenant, on va se mouiller.
Voilà, on va sortir le parapluie parce qu'on a un budget de fou pour rejoindre. Voilà, faire quelques pas pour voir effectivement d'un peu plus loin cette façade de mairie qui là aussi recèle plein de secrets. Certains sont même difficilement visibles de là. Donc, on va peut-être attirer l'attention de nos auditeurs pour qu'ils regardent tout et qu'ils ne ratent rien.
Voilà, alors, la façade se déploie avec la partie centrale avec de grands vides, de grandes ouvertures qui laissent passer beaucoup de lumière. Le premier étage où se trouvent les balcons, c'est l'étage noble, celui où autrefois se trouvaient la salle du conseil, la salle des mariages et la salle des fêtes. Et donc, l'entrée principale... On voit un portail assez monumental avec des colonnes. On parlait du style antiquisant, qui a des références multiples. Le RF de la République française dans un cartouche. En dessous, L à l'endroit, à l'envers, Limoges, incarné. Il y a des médaillons de mosaïque. Alors, encore une fois, avec le L de Limoges. Mais au-dessus, vous allez avoir sur un bandeau, eh bien, Léonard Limousin, notre ami chancelier d'Aguesso. Pour la justice, Pierre Vergniaud, le malheureux révolutionnaire, le grand tribun girondin, et puis Jourdan, le militaire, les régimes passent, lui reste droit dans ses bottes. Et le point commun, c'est que ce sont bien sûr des personnages illustres, mais nés à Limoges. C'est la fierté, l'hommage de la ville pour ses enfants les plus célèbres. Au centre, un Saint Martial, armoirie de la ville de Limoges, les Maurice. Au-dessus du cadran de l'horloge, allusion au peuple sur place, déjà même avant l'arrivée des Romains, la date 1882, les travaux. Bon, là, on lève beaucoup la tête, vous ne voyez pas faire.
Ça
y est, la pluie, on la prend. Alors, cette fois, là où on ira tout à l'heure, c'est-à-dire le campanile et la girouette. 43 mètres.
Ouais. Ah oui, quand même. Donc, oui. On va commencer à s'entraîner. On a deux jolies statues de femmes assez peu vêtues également qui entourent et qui veillent sur notre arrivée.
Oui, qui symbolisent, on le voit, alors les arts. Ce sont comme des muses. Elles tiennent des vases en porcelaine. Et puis, question, je vous la pose. Où se trouve la devise républicaine, la chère devise?
Et quand on est face à la mairie, on ne la voit pas. On se dit comment une mairie peut avoir fait l'impasse sur le liberté, égalité, fraternité. Il est quand même bien là.
Surtout à Limoges, on imagine le frontispice. Alors, liberté, égalité, fraternité, il apparaît en réalité sur l'intrados, c'est-à-dire, vous arrivez, vous allez prendre la porte, mais surtout vous levez la tête et vous allez voir liberté, égalité, fraternité sur un lit de mosaïque. C'est la devise.
Donc ça veut dire qu'il y a une symbolique sur la mise ici, c'est pas juste pour le cacher, pour pas qu'on le voit, c'est au contraire, tout est dans le symbole.
Et tout à fait, il y a des pistes là-dessus. En fait, c'est très initiatique. Encore une fois, vous êtes obligé de passer par l'entrée sous les auspices de la République nouvelle, liberté, égalité, fraternité, devenir un bon républicain.
Voilà. De valider effectivement cette devise. Et donc nous on va justement passer sous cette entrée, sous cette devise que nous allons valider ensemble. Et demain on va se retrouver dans le hall et puis on va aller parcourir différentes pièces emblématiques de cette mairie avant de ne grimper dans le campanile peut-être jeudi et peut-être même de finir dans le bureau de monsieur le maire vendredi. On voit ça à partir de demain ensemble. Et c'est notre troisième rendez-vous cette semaine à la découverte en détail de l'hôtel de ville de Limoges dans lequel nous nous trouvons. Ça résonne un peu, c'est un peu haut de plafond, hein. Je vous l'accorde un peu plus qu'en studio. Évidemment, nous sommes toujours avec Éric Bouteau, guide conférencier à l'Office de Tourisme, qui nous raconte une partie de cette histoire hein, particulièrement riche de l'hôtel de ville. On le rappelle, inauguré en 1883, le 14 juillet, on l'a appris et on le rappelle. On va parcourir aujourd'hui et demain différents sites emblématiques de cet hôtel de ville, à commencer par le hall, parce que voilà, il y a des halls de bâtiments publics parfois qui ne valent pas le détour. Là, en l'occurrence, il y a déjà 1000 choses à voir.
Le passage obligé, la salle des pas perdus, le vestibule, le hall d'entrée. Effectivement, en pénétrant, on est toujours assez étonné, mais en bien, par le dimensionnement, les volumes, alors qui sont dignes justement d'un palais. Hein. C'est la maison commune, c'est un bien commun et le caractère ostentatoire est marqué. Alors, le plafond est à caissons, avec des éléments de détail comme des feuilles de chêne, des pilastres qui évoquent différents styles architecturaux. Il y a des lustres magnifiques monumentaux, dont un particulier, c'est celui qui est au-dessus du seuil qui mène vers l'étage. Il est en porcelaine blanche, bien sûr, mais aussi bleu, un bleu très profond, un bleu de four. Alors ce lustre-là, il a été offert par l'entreprise Bernardo à l'occasion du passage en 2001 vers un nouveau millénaire, Olivier Gagnère. Il s'agit du designer. Et il s'appelle Park Avenue de la ville de New York puisque Bernardo possède une boutique Big Apple. Voilà. Dans les autres décors, il y a, au niveau des pilastres, des sortes de boucliers, des écus. Ce sont bien des armoiries, en réalité. À travers des codes couleurs de forme de motifs, on nous présente, en réalité, des métiers. Il s'agit de professions, de corporations. Alors, c'est assez étonnant, mais il faut se remettre, encore une fois, dans le contexte de la fin du 19e siècle, avec des grandes lois progressistes, et notamment la loi Waldeck-Rousseau, qui permettait la création des syndicats, la réunion des personnes par métier pour défendre leurs intérêts.
Donc tout un tas de symboliques. Et puis on a parlé d'elles régulièrement ces derniers temps. Ce sont les statues également qui sont présentes ici, qui ont eu droit à un petit coup de frais.
Voilà, dans le programme de la souscription de la restauration qui a commencé, donc il y a le buste de Tabard dont on a parlé, mais il y a aussi deux statues de part et d'autre de l'escalier. L'une symbolisant avec des traits très graciles, c'est une allégorie, la géographie. Elle tient le globe terrestre. Et puis l'autre, c'est le fameux tribun girondin Vergniaud, qui avait d'ailleurs proclamé la sentence de condamnation à mort du roi Louis XVI.
Monter, on va profiter de cet escalier pour aller à l'étage, parce qu'il y a une mise à l'honneur notamment de ce qui fait la richesse de notre région. On peut peut-être dire un mot pendant qu'on grimpe cet escalier, notamment de la salle des présidents, qui fait partie d'une des salles de l'hôtel de ville.
Oui, la salle des présidents, elle est juste à côté de la salle du conseil municipal. C'est une salle où aujourd'hui on fait des réunions. Bon, elle est intéressante parce que finalement, il y a cette tradition à Limoges que de conserver tous les portraits présidentiels, depuis le président Thiers jusqu'au président actuel. Et puis aussi, on trouve dans cette salle une Marianne qui est peinte. Et il y a la représentation aussi de Jean Jaurès et puis de Léon Blum.
Voilà. Et les escaliers sont raides, on en témoigne. On est arrivé sur le palier. Et donc, je l'ai dit, on profite de cette mairie aussi pour exposer ce qui fait la richesse et le savoir-faire de la région.
Oui, alors sont exposées les pièces qui ont concouru et qui, pour beaucoup, sont des lauréates de la Biennale de Porcelaine. Depuis 2010, se tiennent des biennales, donc tous les deux ans. On aperçoit, vous voyez, par exemple, sur la droite, là, c'est assez curieux. Vous ne me le diriez pas, c'est une tasse pour vous, peut-être?
Ouais.
Ouais. Non, ceci n'est pas une tasse. C'est le nom de l'œuvre.
C'est écrit.
On est vraiment dans la trahison de l'image. On pense à Magritte.
Ouais. On a un joli bustier également en porcelaine.
Ah, magnifique. Alors, cette pièce qui a emporté cette année, la thématique, c'était la mode. Et vous imaginez ce travail-là, presque celui d'une couturière autour d'un mannequin. Mais là, on a pris l'empreinte, on a pris la forme. Il est en trois parties et il peut se porter. Hein, on a mis une lumière à l'intérieur pour voir justement aussi tout le détail qui est rendu pour imiter finalement le drapé, les plis du vêtement.
On va peut-être faire une escale, nous, au Salon Bleu, peut-être, oui, pour refermer ce rendez-vous du jour. Alors, Salon Bleu, voilà, qui est juste à côté de cette salle d'exposition. On va sortir le gros trousseau parce qu'il y a un nombre de portes incalculable. Donc, à chaque porte, sa clé. C'est fort boyant, hein, finalement, ici.
On s'y retrouve parce qu'effectivement, nous, on vient souvent avec des enfants. Et là, on est rentré, ça y est.
On change un peu d'acoustique.
Je vous ai invité dans le Salon Bleu, qui est une très belle salle, avec une grande cheminée où figurent énormément de motifs, République française encore une fois, des vases en porcelaine, un médaillon où se retrouvent les armoiries de Limoges, mais il est en émail.
On dirait pourquoi Salon Bleu ? Parce que les murs sont bleus. Hein.
Ah oui, c'est bleu. Le décor est bleu. Hein. On a une peinture bleue partout, les vitraux aussi sont bleus, le plafond, alors il est quand même assez imposant parce que quand on lève la tête, ça occupe toute la superficie quasiment du plafond. Et nous avons ici un don de l'État, une grande toile marouflée où on nous présente une femme plus heureuse que d'autres qui est comme libérée, victorieuse parce qu'elle vient d'obtenir depuis l'incarnation d'une femme qui elle est la liberté, elle vient d'obtenir la liberté pour les habitants de la ville de Limoges. Alors cet espace, il était l'endroit du conseil municipal avant les années 1970. C'est ici qu'on se réunissait pour prendre les décisions.
Et d'ailleurs, durant la guerre, il s'est passé des choses dans cette même pièce.
Alors dans cette pièce, en 1940, l'avancée des troupes allemandes entre en Belgique et le roi Léopold va capituler et une partie des représentants parlementaires belges qui ont quitté la Belgique et se sont arrêtés à Limoges où ils vont prendre un certain nombre de décisions qui vont être très importantes pour la souveraineté et l'avenir de la Belgique. Donc pendant quelques jours, on sera une forme de capitale belge ou du moins des représentants, de parlementaires. Voilà, des histoires dans l'histoire.
De l'histoire de cette salle, en tous les cas, qui est aujourd'hui quoi, une salle plus de réception, conférence de presse, ce genre de choses.
Aujourd'hui, voilà, y a les tables qui sont dressées et on accueille nos amis. Quand je dis nos amis, ce sont les villes qui sont jumelées, ce sont des nouveaux habitants de Limoges, par exemple. Et puis, ça peut être aussi quand il y a une victoire d'un club sportif. Donc, c'est une salle pour dire merci.
Bon, on n'est pas amis, a priori, parce qu'on n'a pas un petit four. Rien n'a été prévu pour notre venue. Tant pis, nous allons donc repartir tranquillement. Et là, juste à côté, on passe une petite porte. Et on a, alors là, une salle de réception un peu plus en grand.
Oui, une salle, c'est la plus grande salle. C'est une salle qui est immense. Alors, c'est celle qui donne, quand vous êtes sur la place, vous voyez les balcons, le drapeau bleu, blanc, rouge et le drapeau européen. Donc ce sont ces grandes fenêtres. On l'appelle salle des fêtes puisque se sont tenues réellement dans cette salle d'ailleurs des bals autrefois. Et il y avait accroché autrefois beaucoup de tableaux avant que le musée de Limoges, les musées n'ouvrent. On a pu entreposer voilà un certain nombre d'œuvres de collection. Et d'ailleurs actuellement vous avez une grande toile de Rebérol, bon, immense artiste contemporain. Et puis il y a aussi de l'autre côté un travail de maître lissier, Don Robert, et c'est une œuvre qui est très joyeuse, très gaie.
Voilà pour cette salle. Nous, on va s'interrompre le temps de rejoindre d'autres salles. On va peut-être passer aux choses sérieuses d'ailleurs. Conseil municipal, mariage, on va parler de choses ô combien importantes qui se jouent également au sein de cet hôtel de ville de Limoges. Mais ça, on en reparlera ensemble demain. Et nous sommes de retour pour le quatrième et avant-dernier épisode de cette série consacrée à l'hôtel de ville de Limoges. Nous sommes revenus, j'allais dire dans le hall, en tous les cas sur la petite mezzanine à l'étage supérieur, puisque nous allons rentrer dans une salle évidemment très importante, en compagnie d'Éric Bouteau qui est notre guide, hein, et guide conférencier à l'Office de tourisme de Limoges, qui a les clés, vous l'entendez, c'est notre passe-partout à nous. Nous allons pénétrer dans la salle du conseil municipal, qui est donc face à nous.
Je pousse la porte... Et nous, voilà.
Nous ne dérangeons personne, donc tout va bien.
Tout va bien, nous ne sommes pas en réunion.
C'est le moment, c'est notre moment.
Bah, c'est quand même le Saint des Saints qui gère les affaires de la commune.
Alors expliquons pour nos amis qui n'ont pas l'image à quoi ressemble cette salle avec une disposition déjà particulière.
Oui, une partie qui est un peu plus surélevée on dira. Plusieurs tables qui forment comme un U se tiennent ici, le maire, les adjoints. Il peut y avoir aussi, sur le côté, des directeurs de service, donc des techniciens. Et là où se tient le maire, donc c'est le plus joli siège.
C'est celui qui a des roulettes, quoi. Donc c'est tout de suite, ça fait la différence.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est bien entendu une émission. C'est aussi, comme il anime le débat, de pouvoir, si cela se déroulait mal, faire la police de séance.
Voilà. Avec sa fameuse cloche qui est quand même marquée ville de Limoges, donc c'est pas n'importe quoi.
Exactement. Et donc face à ce U qui est surélevé, des séries, des rangées, on va dire, de tables, mais qui nous font face. Puis le public peut venir voir ça, on va dire, tout seul. Hein. Oui. Derrière, vous avez, si vous voulez, dans le prolongement de la salle, il y a trois sortes de portes qui sont fermées, mais qui s'ouvrent au moment des conseils pour que le public puisse s'installer, ainsi que les journalistes. Hein. Le conseil municipal, il est relayé maintenant sur Internet, donc vous pouvez le voir. Et puis, pour le décor, les murs, ils sont recouverts de sortes de grands lambris, en quelque sorte, de panneaux de bois. Donc, il y a une lumière comme ça, un peu tamisée dans cette salle.
Il y a un côté solennel, hein, quand même, ici, rapport à ce que l'on peut voir ailleurs dans l'hôtel de ville.
Hein. Oui, tout à fait. Le mobilier bleu. C'est quand même une salle qui est un peu dans l'esprit années 70 aussi. On voit, hein, ça tranche avec l'architecture et les salles plus 1900, on va dire. On peut voir aussi une grande frise qui sont une série de portraits qui ont été réalisés par le peintre Prado et qui nous montrent les différents maires. Depuis M. Casimir Anson, donc maire au moment de la construction, l'achèvement de la mairie, et puis des maires comme Labussière, Chaigneux, Betoul, il y a Guingouin, M. Longequeux, le pharmacien, donc qui a été maire jusqu'en 1990.
La suite du décor,
il y a quand même une femme.
Ah oui.
Au-dessus de nous, il faut le dire, eh bien, c'est Marianne, en métal. Une sculpture des années 70.
Elle ressemble pas au buste dont on a l'habitude, que tout le monde a en tête. Hein.
Elle est victorieuse. Et puis, bien sûr, elle porte un bonnet, qui est le bonnet phrygien, qui était celui que l'on remettait aux esclaves qui n'en étaient plus, qui étaient affranchis, qui étaient libérés. Voilà, une femme battante pour les idées républicaines. La liberté d'abord et la République, bien sûr, aujourd'hui. Voilà.
Une seule femme, en tout cas, elle est au-dessus de tout le monde dans cette pièce. Donc, elle a peut-être le rôle le plus important.
Au-dessus de la mêlée. au-dessus de la mêlée.
Bon, alors, on va aller voir des choses peut-être plus festives, justement, parce que dans une mairie, il y a aussi des événements heureux tels que les mariages. Et pour cela, il y a une salle dédiée, me semble-t-il.
Oui, alors on va revenir à l'étage, au-dessus de la salle du conseil municipal, à l'angle, la fameuse salle des mariages.
On va avoir perdu 15 kilos à la fin de la semaine. C'est reparti.
C'est reparti.
Voilà, après un périple interminable, nous sommes arrivés devant la porte 210, et donc c'est cette fameuse salle des mariages. Alors là, on rentre dans une salle. Alors là, on est encore dans un côté extrêmement à la fois solennel et chaleureux. Hein.
Oui, c'est fastueux, c'est chaleureux. Alors le salon bleu était bleu. Ici, c'est le rouge qui domine.
Donc avec plein de choses également autour. Donc là, on va se mettre à la place qu'occupe le maire normalement, par exemple, quand c'est lui qui œuvre.
Exactement. Donc on fait face à l'assemblée. Nous sommes ici comme officier d'état civil, donc le maire, ou ça peut être un adjoint qui détient ce pouvoir. On marie les gens au nom finalement de l'État et de la loi, puisque faut le rappeler, la fête, le menu, savoir s'il y a du manchon de canard ou pas, c'est très personnel, tout comme le mariage religieux, mais c'est un contrat. Donc là, je sors depuis le tiroir un extrait sur mon cahier bien rangé. Le code civil.
Donc ça, c'est ce qui est lu, effectivement, à tous ceux qui veulent se marier ici.
Je crois que ça rappelle à tout le monde les célèbres formules. Ouais. Article 212, j'en lis un. Hein. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Voilà, il y a d'autres articles qui sont effectivement lus, notamment autour de l'autorité parentale, par exemple.
Ouais, exactement. Hein. Alors, tout à l'heure, on avait Marianne au-dessus de la tête. Maintenant, c'est François Hollande.
Pour pas très longtemps encore, mais il est là pour l'instant.
Il est là, le président en exercice. Et puis, dans le décor, il y a des dorures qui sont nombreuses. Il y a des roses, des fleurs, des festons, de jeunes, alors on va dire des jeunes putis, c'est-à-dire une sorte d'ange.
Mais petits anges, voilà.
Qui sont des petits cupidons. Mmh. C'est le symbole de l'amour. Ils sont prêts à décocher la flèche. Et puis, ils tiennent une corne d'abondance. Et c'est symbolisé aussi sur le plafond. Comme au Salon Bleu, on a une grande toile qui est marouflée, suspendue, et qui offre un spectacle dans un univers céleste. Or, on veut incarner la prudence, l'amour, la tolérance, tout ce qui fera un beau mariage.
Et il y a un passage de Bagaudois, et c'est moi où il y a une erreur sur la main choisie?
Alors, si vous êtes partisan de la tradition, il y a une erreur, puisque on passe l'anneau généralement main gauche. Or, sur le tableau, on voit main droite. En réalité, il y a pas contrefaçon, hein. Il y a une façon de résoudre cette problématique, et le maire est bien placé, puisque quand il regarde face à lui, donc elle est mariée au premier plan, au fond de la salle, il verra une grande cheminée, un médaillon, ubi samor, ibi fides, là où il y a la confiance, il y a l'amour, le miroir, et dans le miroir, vous pouvez voir, grâce au reflet, la scène des mariés, et eh bien ça vient résoudre le problème, ça inverse de nouveau le passage à la main gauche, celle-ci.
Ça évite de refaire la peinture, parce que ça serait un peu chou.
C'est ça, et l'annulaire, le doigt de l'anneau. Je le rappelle.
Nous, on va conclure ensemble ce rendez-vous. Avant demain de finir la semaine dans peut-être ce qui est le symbole d'une mairie, c'est le bureau de Monsieur le maire, et on aura la chance qu'il nous ouvre la porte. Je crois qu'il nous reste un lieu à visiter. Alors, il va nous manquer l'image, mais bon, ça, juste pour finir de m'épuiser, c'est ça l'idée?
Eh bien oui, puisque on va pousser une trappe qui est assez lourde et on va se retrouver là-haut, à 40 mètres.
À 40 mètres quand même, dans le campanile, donc effectivement, pour dominer un peu Limoges, c'est ça l'idée?
On va dominer gentiment et avec bienveillance Limoges.
Quelques escaliers encore.
Ça manquait. On va peut-être profiter juste avant d'arriver à notre ultime grimpette pour parler aussi de ce qui se passe en dessous. Il se passe des choses également en sous-sol au sein de cet hôtel de ville.
Alors effectivement, des services occupent les souterrains, si je puis dire, les caves de l'hôtel de ville qui sont vastes et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle la DP, la défense passive, notamment quand il y avait des bombardements pressentis, on pouvait donc descendre dans certains endroits afin d'éviter les dégâts. Et d'ailleurs, des hôpitaux, enfin un hôpital, des lits avaient été installés en tout cas pendant ces années-là.
Il y a encore plein de secrets, effectivement, plein de choses qu'on ne verra pas et voilà, sur lesquelles on peut se documenter.
Oui, mais nous allons à l'inverse
grimper
encore quelques marches. Celle-ci, on est assez privilégié parce que là, on va pousser des portes qui ne sont pas souvent poussées. On va aller au niveau des combles, donc sous les toits, si je puis dire. Et on va terminer notre ascension périlleuse en allant sur le toit de la mairie.
On va aller prendre l'air un peu.
Ouais, on va aller prendre l'air. Voilà, donc voilà.
Donc là, on pousse déjà une première porte. Déjà, on prend un peu l'air, effectivement.
Oui.
Ça change un peu d'ambiance.
Une partie qui n'est pas particulièrement isolée. Et vous pouvez voir déjà les tapisseries anciennes qui sont là depuis des temps immémoriaux, je dirais. Et on va s'avancer et s'ouvre devant nous ce grand volume très spectaculaire avec toute la charpente à la fois en bois, mais on voit très bien aussi des systèmes de tirants métalliques, voilà, qui tiennent aussi la maison commune. On est dans la pénombre et les quelques puits de lumière nous viennent des lucarnes qu'on voit sur la façade à l'extérieur. Et on est un petit peu dans une atmosphère à la Jules Verne, là, ouais. Avec les grandes aiguilles, le cadran horloger.
Ouais, mais pour ceux qui vont passer devant la mairie, c'est tout simple, on est juste derrière l'horloge. Hein, donc pour ceux qui voudront s'imaginer où on était, allez, on va emprunter un escalier en colimaçon parce qu'on n'a pas assez marché toute la semaine.
Oui. les dernières marches et pas les plus faciles.
Avec ça a l'air de grimper un peu raide. Hein.
Là encore, un escalier qui est d'origine. Et donc là, on voit, il y a quelques rampes qui ont été réparées, mais la rampe du milieu, hein, la main courante, elle est d'origine métallique.
Et je pose mes mains sur une partie d'histoire, donc. Hein.
Oui. Et puis en montant, on apercevra aussi quelques inscriptions. Donc il y a à la fois des inscriptions, des noms, des dates, et puis des dessins. Vous voyez là-haut ce monsieur qui tient une cigarette, par exemple.
Non, on va laisser un poumon, je pense, en souvenir.
André Gainsbourg, oui. Voilà. Et imaginez quand même que derrière cette porte, c'est tout le paysage de Limoges qui va se déployer. On voit loin, on voit très loin, on voit les monts d'Ambazac. Attention, vous êtes prêts?
Nous voilà donc à l'extérieur cette fois-ci.
On fait bien attention où on met les pieds. Il faut dire qu'il y a un garde-corps, une rambarde qui est assez haute. Et depuis la porte où nous sommes sortis, nous voyons plutôt le côté sud. On embrasse ici un paysage sur le bord de Vienne. Alors il y a un peu de brume aujourd'hui. Mais là, vous imaginez tous nos concitoyens. On voit loin, on voit Panazol, on voit Boisseuil. Alors on va faire le tour en même temps.
Donc là, on se retrouve au-dessus de la fontaine.
Et d'ici, finalement, se dessine le plan des axes, des rues. On se confronte un peu aux hauteurs. Bon, finalement, on voit qu'on est haut, puisque...
on a l'impression d'être plus haut que la gare, donc...
Oui, on a vraiment cette impression. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, finalement, presque le relief naturel. Les pentes, on peut deviner peut-être les anciens ruisseaux qui ont creusé plus ou moins des combes à certains endroits. Les toits sont très intéressants, parce qu'on voit bien les quartiers plus anciens qui sont rouges de tuiles, et les quartiers autour de 1900 et plus contemporains avec l'ardoise ou bien le fameux toit terrasse.
On va continuer l'ascension puisque visiblement on peut aller un peu plus haut.
Oui, on va gagner encore quelques mètres.
Alors allons-y.
On va tenter. Alors...
Ah oui, donc, là d'un coup c'est moins sympa.
Ouais.
Alors... Donc là le principe c'est qu'on est... Alors, on se retrouve sous une trappe.
Ouais, je découvre un peu.
C'est vous dire si effectivement on est privilégié, parce qu'on ne vient pas là très souvent.
Non, non.
Donc il va falloir, a priori, pousser une trappe pour pouvoir y accéder.
Ah oui, mais c'est super dur.
Ah oui, quand même.
C'est-à-dire qu'il faut venir à 15 à peu près pour ouvrir la trappe.
Ah oui, quand même.
Donc là, on vient de pousser avec grosse difficulté cette trappe qui pèse je ne sais pas combien pour arriver à accéder. Donc là, on est sur le point le plus haut finalement de ce campanile.
Oui, là, on n'ira pas plus haut. Hein. je confirme, on est sous la cloche de la mairie, donc qui sonne là au moins toutes les 30 minutes, qui nous donne l'heure, le carillon républicain. Et puis, il y a aussi une grande sirène là qui sonne... je crois tous les premiers mercredis du mois.
Pour ne rien cacher à nos amis, nous sommes lundi et ça nous arrange bien. Parce que je pense que si ça se met à retentir maintenant, on ne s'entend plus pendant quelques semaines.
Oui, voilà. Et puis au-dessus, finalement, comme une petite rotonde, c'est le bout du campanile, cette forme si reconnaissable quand on voit la mairie de loin. Hein, vous savez, un peu arrondie comme une poivrière et qui est aussi sous l'effet des vents. Se tourne, qui est la girouette. Il y a une girouette, vous regardez, il y a une girouette, je garantis.
Voilà, avec effectivement une vue qui est quand même assez magnifique. C'est là où on prend effectivement conscience de ce qu'est véritablement Limoges finalement et de toute la population qui est là face à nous et pour laquelle on décide pas mal de choses finalement dans cet hôtel de ville.
Exactement, et de cet emplacement privilégié et petit clin d'œil de l'histoire, il y a 1800 ans, se tenait ici le Forum Gallo-Romain. Donc c'était déjà l'endroit des instances politiques de notre ville.
Ça reste donc un des endroits stratégiques de Limoges, bien évidemment. Alors si on veut le découvrir, si on veut en savoir plus, que là, on n'a pas tout dit, il y a mille et une choses encore à raconter régulièrement. Alors, pas jusqu'au campanile, là c'était vraiment le petit plus pour nous, mais il y a des visites guidées qui sont organisées pour venir expliquer toutes ces richesses à ceux qui le souhaitent.
Tout à fait, avec un guide, vous me retrouverez peut-être. On organise des visites d'1h30 sur l'histoire, l'architecture, l'accès à certaines pièces. La prochaine, c'est le 19 février. Il y en aura deux en avril. Donc, se renseigner sur le site internet de la ville ou de l'office de tourisme sur le programme Ville d'art et d'histoire. Et on aura à cœur de répondre à vos questions et de pousser des portes qui sont aussi les vôtres.
Voilà, et une dernière porte reste à pousser, c'est celle du bureau de Monsieur le Maire qui a accepté de participer à ce rendez-vous cette semaine en nous ouvrant les portes de son bureau pour nous raconter un petit peu ce qu'elle cache. On voit ça demain donc pour refermer cette semaine. Là pour l'instant on va refermer la trappe pour retourner au sec.
Merci
en tout cas Eric.
Merci.
Et c'est notre tout dernier rendez-vous de cette semaine que nous partageons à la découverte de l'hôtel de ville de Limoges. Et après avoir partagé le début de semaine avec Eric Bouteau, le guide conférencier de l'office de tourisme, eh bien nous allons terminer la semaine dans peut-être le lieu le plus symbolique de cet hôtel de ville qui dit mairie, dit forcément maire. Et nous sommes installés au cœur du bureau de monsieur le maire, Émile Roger Lamberti, qui nous fait la gentillesse de nous accueillir quelques minutes. Avant de parler de ce lieu et de ce qu'il compose, un mot déjà peut-être de votre impression à vous, quand vous avez poussé la porte en 2014, quand vous avez pris possession des lieux, quelles impressions ?
Alors, il y avait deux choses dans ma tête. La première, celle d'administrer correctement cette ville. Et puis la deuxième, quand je me suis rendu compte de l'état du bureau, qui était un bureau avec une moquette extrêmement vieille, sale, tachée, des dessous de fenêtres où le plâtre s'en allait, une vieille bibliothèque qui était en voie de dégradation, un bureau en voie de dégradation. Donc je me suis dit, je ne peux pas rester dans un bureau qui soit aussi peu accueillant et aussi peu chaleureux et aussi peu emblématique de la ville de Limoges. Et je me suis dit qu'il était important de revoir l'ensemble de l'organisation de la mairie et de faire d'abord aux collaborateurs des bureaux qui soient propres et accueillants. Et puis la deuxième chose, refaire le hall, refaire les peintures du hall pour permettre aux gens qui le visitent, et l'hôtel de ville est visité tous les jours, quelque chose d'accueillant et de propre, pour rehausser le style, le mettre en valeur et montrer que la maison commune était une maison entretenue.
Même si on n'est pas souvent dans son bureau, il est important de s'y sentir bien et que le visiteur s'y sente bien lui aussi, qu'il se sente un peu chez lui finalement.
Alors à la fois le bureau doit être accueillant et il est le lieu du pouvoir, mais pas du pouvoir au sens de « ici c'est le roi », mais bien du pouvoir au sens du pouvoir-faire pour la ville. C'est le lieu où doit s'articuler les décisions majeures pour la ville, qui concerne la ville de Limoges, son agglomération, la représentation de Limoges dans le département, dans la région, la représentation de Limoges au niveau de l'État et la représentation de Limoges au niveau international.
Alors on va parler de votre touche dans ce bureau que vous avez imprimé depuis 2014.
Alors dans ce bureau d'abord, en arrachant la moquette, tout le parquet qui était abîmé est parti, et donc on a refait complètement l'isolation et le parquet. Le parquet est refait sur le modèle de l'origine, c'est-à-dire parquet posé en pointe de Hongrie, qui a été la base du décor. Un parquet blond, en bois naturel, avec un vernis mat, de telle manière que le bois paraisse le plus naturel possible. Ensuite, nous avons choisi des couleurs relativement neutres pour mettre en valeur les éléments qui sont les symboles de la ville de Limoges. La porcelaine, sous deux aspects, à la fois les rideaux et les appliques, que vous pouvez voir, c'est le matériau traditionnel dans son traitement moderne. Et puis elle est sous forme soit de vases qui ont été offerts par nos amis à l'international, et soit la porcelaine de Limoges, avec de la porcelaine de deux ou trois grands porcelainiers, dont du Bernardo, et vous voyez la dernière création qui est emblématique de la qualité de Limoges pour l'innovation et le design, c'est la fameuse théière Bernardo avec le cuir et l'anse Weston. Je tenais à ce qu'il y ait la présence des émaux. C'est un émail moderne que j'ai choisi et que j'ai financé moi-même. Et en plus, il a l'avantage, alors sur un plexi noir, de rappeler les champs levés du Moyen-Âge et en même temps d'être extrêmement moderne. De l'autre côté, il y a une peinture sur cuivre chauffé qui est un peu dérivée de ce qui est l'art de l'émail et qui m'a été offerte. Les deux drapeaux de l'Europe, je suis un Européen convaincu, mais pas un Européen passéiste et pas un Européen passif. Et enfin, quelque chose qui pour moi est emblématique de Limoges, c'est cette fresque qui représente l'ensemble des grands bâtiments de Limoges, avec la mairie, la cathédrale, Saint-Pierre et Saint-Michel, et Esther.
Qui est voilà, sur le mur, effectivement, en face de l'entrée, quand on vient dans ce bureau. Il y a aussi les symboles de la ville de Limoges qui sont au-dessus des portes.
Alors, au-dessus des portes, il y avait depuis longtemps des blasons qui étaient vides. Et j'ai demandé que ces blasons soient remplis par deux choses. Alternativement, le logo de la ville de Limoges et le blason de la ville de Limoges représentant Saint-Martial.
Après, il y a aussi votre décoration à vous. On dit, hein, c'est votre bureau, c'est un peu votre deuxième maison. Ça veut dire qu'on amène quoi ? Des petites touches personnelles qui fait que voilà, ce bureau vous ressemble aussi ?
Alors, ce bureau me ressemble peut-être par la sobriété de l'ambiance, par la modernité, par la touche économique et par la touche, j'allais dire, la beauté du bois blond que j'adore, avec l'isolation dessous renforcé de telle manière qu'on économise l'énergie, et vous voyez, c'est l'arrivée des LED, c'est l'arrivée d'un éclairage économe d'énergie parce que la protection de notre environnement est un élément majeur de l'avenir.
Et puis il y a évidemment dans ce bureau ce qui jalonne votre mandature, ce sont des cadeaux, vous en avez parlé, il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur dans ce bureau, je suppose.
Oui, c'est les échanges de la route de la céramique, la mise en valeur de la porcelaine et des émaux au niveau international, et puis la présence de l'Afrique, avec deux masques qui m'ont été offerts par Mbour, avec qui j'entretenais des relations par le biais du CHS Quirol dans mon métier, où on a développé des soins aux personnes. J'en suis très heureux et très fier.
Et puis dans votre dos, quand vous êtes à votre bureau, il y a le général de Gaulle également.
Alors le général de Gaulle, devant le micro de la BBC, parce que c'est l'image de la France libre, c'est l'image de la France qui lutte contre ses démons, c'est l'image d'une pensée politique avec une idée de la grandeur de la France dans l'Europe et dans le monde. C'est l'idée aussi que quand tout va mal, rien n'est jamais perdu et qu'on doit se battre pour créer un avenir, pour que cet avenir soit meilleur, pour créer un avenir pour notre population, pour défendre la démocratie. L'idée de la résistance, résister contre la facilité, résister contre les tendances à se dénoncer les uns les autres et à se séparer, et mettre en œuvre surtout l'idée d'être le plus solidaire possible et ensemble.
Notel de ville, d'une manière générale, on l'a dit, c'est la maison de tous les Limougeaux. Hein. Ça veut dire que chacun peut participer. On parlait de mécénat notamment. Ça, c'est une opération qui a été lancée pour que chacun contribue finalement à cette maison.
Oui, c'est la maison de tous les Limougeaux. Elle a été construite grâce à un don. Quand je suis arrivé, j'ai été effaré de l'ampleur de la rénovation à mettre en œuvre et je voulais que la population puisse en être informée et associée. On a plus de 1000 donateurs maintenant. Quand j'ai vu tous ces donateurs, eh bien, il y a beaucoup de petits dons et beaucoup de gens qui sont mobilisés pour défendre ce qui est l'enseigne de la République. Et donc, il était pour moi extrêmement important de rappeler à tous que cette maison n'est pas la propriété d'un parti politique. Elle n'est pas la propriété de l'élu. L'élu est là pour faire vivre cette maison au service de tous les Limougeaux, de tous les concitoyens. C'est l'espace qui appartient à tous. Et donc, nous avons lancé les travaux de rénovation. Nous avons commencé par rénover les statues dans le hall. Maintenant, se poursuit la rénovation de la fontaine. J'ai lancé aussi le fait que l'on mette des bancs en céramique devant la mairie et puis qu'on aille partout dans la ville où on devra installer des bancs. Derrière, on va avoir la Méridiana qui mettra en œuvre les fondamentaux de Limoges pour créer la richesse et le brio de l'image de l'avenir.
Et ce n'est que le début de l'aventure, donc en gros, oui. On est bien ici, prêt pour y rester quelques années encore.
Oui, vous savez, ça c'est nos concitoyens qui décideront. J'ai été élu pour faire, j'essaie de faire au service et au bénéfice de tous. Vous savez, je n'ai qu'une envie, c'est que l'ensemble des enfants de Limoges puissent un jour soit travailler à Limoges, soit revenir y travailler pour y créer de la richesse et renforcer son rayonnement.
En tous les cas, on a vu tout le monde à venir pousser la porte de la maison finalement.
Oui, c'est notre maison commune.